RCF. Magazine Régional 18h10, bonsoir Alexis.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous.
Aux auditeurs et aux auditrices de RCF Cœur de Champagne et de RCF Reims-Ardennes, bonsoir.
Bonsoir Jean-Pierre, avec des nouvelles que vous voulez annoncer, notamment un témoignage que l'on retrouvera demain soir dans le magazine régional, mais dès demain matin sur RCF.
Dès demain matin, 7h-8h, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui revient de Lourdes avec un certain nombre de diocésains de Reims, mais aussi de Châlons-en-Champagne, car il y avait des diocésains de la province. Ils reviennent de Lourdes, ils ont participé au rassemblement Kérigma, qui avait pour objet de regarder ce que peut faire demain l'Église dans une pastorale missionnaire.
Maintenant que ce teasing pour mercredi est fait, on va regarder ce qu'il se passe ce mardi soir avec Jean-François Boulanger qui nous parlera du Mont-Saint-Michel dans une nouvelle chronique Mémoire chrétienne d'ici quelques secondes. Il est en ligne avec nous par téléphone. On ira faire un tour également du côté de Prouilly, Jean-Pierre.
Et oui, à Prouilly avec Catherine Malaisé, son maire, qui nous parlera de toutes ces innovations.
Dans le diocèse de Châlons, on aura pas mal de nouvelles avec notamment un rendez-vous que nous donnera Sœur Marie-Charles de Jésus pour le 5 novembre prochain, un dimanche oasis fraternelle à l'Épine. Du côté du diocèse de Châlons, ça sera aussi ce soir l'occasion de faire la rencontre de Loïc Marthe qui est le nouveau délégué épiscopal à l'information du diocèse. Et puis, il n'y a pas de 18-19 sans un petit peu de politique. C'est vrai qu'on rencontre les maires, mais on ne fait pas de la politique politicienne. On n'en fera pas non plus avec le député de la Marne, Charles de Courson.
Absolument, car Charles de Courson, député de la Marne, réputé comme quelqu'un d'intransigeant, d'honnête, mais aussi un regard lucide sur la vie politique de notre région. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on retrouvera Charles de Courson, qui est vraiment très connaisseur des sujets d'actualité.
18h12 sur les ondes de RCF, Jean-François Boulanger devrait être avec nous par téléphone. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Dans le cadre de la série d'émissions que vous consacrez aux lieux de pèlerinage qui sont également des lieux de mémoire, nous allons aujourd'hui nous rendre en un lieu qui figure parmi les plus prisés des Français, le Mont Saint-Michel. Quelle est sa particularité ?
Alors, sa particularité est qu'il n'est consacré ni à la Vierge, ni à un saint ancré dans un territoire, comme peut l'être par exemple Saint-Martin à Tours ou Saint-Rémy à Reims, mais à un archange. Dans la tradition catholique, il existe trois archanges, Saint Raphaël, Saint Gabriel et Saint Michel. Et ce dernier donc est le prince des anges qui commande, dit-on, aux armées célestes. Et comme il est le chef de la milice céleste, il est toujours représenté en armure, brandissant une lance ou une épée, et terrassant Satan, représentant dragon, qui vit à ses pieds. Et par cette action, il symbolise la victoire du bien sur le mal. Mais l'archange est aussi le peseur des âmes au jour du jugement. Il les guide, il les escorte dans l'au-delà, et c'est pour cette raison qu'il peut également tenir dans une main la balance.
Comment Saint-Michel arrive-t-il dans la baie à laquelle il va donner son nom ?
Alors, c'est par le biais, si je puis dire, de l'évêque d'Avranches, Aubert, qui, en 708, rencontre dans ses rêves à trois reprises l'archange Saint-Michel, qui lui demande de construire un sanctuaire en son honneur sur un des trois rochers qui émergent alors de la baie. Ce rocher s'appelle le mont Tombe. Cet îlot rocheux abritait déjà deux oratoires édifiés par des ermites au siècle précédent. Et Aubert donc va y installer 12 chanoines pour servir le sanctuaire et accueillir les premiers pèlerins. On n'a aucun mal à imaginer que construire ce sanctuaire à un tel endroit a été particulièrement difficile. Par contre, sa splendeur, la difficulté pour le construire, puis pour y accéder, vont contribuer effectivement au développement du pèlerinage.
Alors certes, Jean-François Boulanger, mais pourquoi honorer l'archange Saint-Michel ?
Alors, c'est un culte en fait qui vient d'Orient, où on le détecte, on en a des traces en tout cas, dès le IVe siècle. Il arrive en Italie à la fin de ce IVe siècle, et c'est le rôle de guerrier contre les démons et les forces diaboliques qui attirent les pèlerins, parce qu'il évoque dans l'esprit des Michelots, les Michelots ce sont les pèlerins qui vont à Saint-Jacques, hein, un pouvoir de protection contre le mal, et aussi, dans ces temps troublés du Moyen-Âge, contre les ennemis. Et à l'approche de l'an 1000, le culte de Saint-Michel se développe, les structures mises en place sur le rocher permettent d'accueillir davantage de pèlerins, et par ailleurs, sa situation géographique particulière, sur un îlot, en font un refuge face aux Normands. Et plus que jamais, donc, on invoque sa protection.
Le rayonnement de ce pèlerinage est-il important ?
Oui, il dépasse largement les limites du royaume de France. Donc le Mikkelo peut venir d'Italie, d'Allemagne, de Flandre, par des routes qu'on appelle les chemins du paradis. Tous ces pèlerins ne sont d'ailleurs pas des saints, si je puis dire, puisque à cette époque-là, quand on chemine sur les routes qu'on va à l'aventure, ce n'est pas forcément pour d'excellentes raisons. Et parmi les Mikkelo, il y en a un certain nombre qui mendient le gîte et le couvert, et qui peuvent le faire d'une manière plutôt agressive, et dans ce cas-là, ce sont carrément des bandits. Et pour ceux qui arrivent à proximité de la baie du Mont-Saint-Michel, ce pèlerinage peut prendre une signification bien particulière.
Ça mérite quelques explications, Jean-François. Pourquoi cela ?
Oui, parce que, il faut s'imaginer que ces Mikkelo qui viennent du centre de la France ou du cœur de l'Europe n'ont, pour certains d'entre eux, la plupart même, jamais vu la mer. Et ils doivent traverser les grèves à l'aide d'un passeur pour éviter évidemment d'être noyés, ce qu'ils peuvent associer à la fuite du peuple hébreu à travers les déserts. Ils doivent attendre la marée basse pour passer, et leur passage donc peut leur évoquer la traversée de la mer Rouge. L'imaginaire et les récits qui leur ont été faits des dangers inhérents à cette traversée de la baie avec ses bancs de sable, qui peuvent se trouver encerclés par la mer, ses sables mouvants, le brouillard, etc., préfigurent le parcours des âmes vers la Jérusalem céleste qui, elle, est symbolisée évidemment par l'îlot. Donc le nombre des pèlerins continue d'augmenter jusqu'à la guerre de 100 ans, en sachant que l'îlot résiste cette fois aux Anglais, ce qui va encore accroître la réputation protectrice de Saint-Michel. C'est l'apogée du pèlerinage.
Quand le pèlerinage va-t-il décliner ?
Avec la Révolution. Les ordres religieux sont supprimés et l'abbaye est désormais vide avant de se transformer en prison. Et c'est seulement en 1863 que l'abbaye retourne à sa destination première. Et le pèlerinage ne retrouvera jamais la fréquentation qu'il avait eue au Moyen-Âge.
Cependant, Jean-François Boulanger, rassurez-nous, tout n'est pas perdu. Il y a quand même quelques restes, j'allais dire, de ce pèlerinage.
Ah oui, bien sûr, il y a toujours des pèlerins. D'abord parce que le pèlerinage du Mont-Saint-Michel bénéficie du regain que l'on a constaté ailleurs, à Saint-Martin ou pour Saint-Jacques, qui associe pèlerinage et randonnée. Et début 1998, une association loi de 1901, intitulée Les chemins du Mont-Saint-Michel, est créée afin de retrouver et de promouvoir les anciens chemins de pèlerinage menant au Mont-Saint-Michel. En 2009, l'association modifie ses statuts, devient Les chemins de Saint-Michel. Elle est soutenue par la DRAC de la région Normandie, par les conseils départementaux de Normandie, et elle propose donc une nouvelle approche du site, restituant pleinement au Mont ses dimensions culturelles et spirituelles. Et le Conseil de l'Europe donc a attribué au réseau des chemins de Saint-Michel le label d'itinéraire culturel du Conseil de l'Europe. Et depuis 2020, les pratiques d'itinérance et de pérégrination au Mont-Saint-Michel sont inscrites à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel, en vue d'une candidature à la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Par ailleurs, deuxième élément, Saint-Michel est devenu le patron des parachutistes. Ça date du débarquement de 1944, lorsque les parachutistes britanniques du 2e SAS sautent sur le sol français pour se joindre à la résistance, et leur aumônier leur avait donné une petite médaille à l'effigie de Saint-Michel, et donc quand ils doivent se mettre en civil pour se cacher, et leur signe de ralliement est à ce moment-là cette médaille de Saint-Michel. Depuis ce jour, tous les parachutistes ont adopté Saint-Michel pour Saint-Patron, et chaque année, le 29 septembre, c'est-à-dire le jour de la Saint-Michel, des dizaines de parachutistes se sont largués au-dessus donc du Mont-Saint-Michel pour honorer leur Saint-Patron.
Justement, puisque vous évoquez les parachutistes, n'y a-t-il pas des connotations politiques qui peuvent être associées au Mont-Saint-Michel ?
Oh que oui, parce que justement, c'est le cas actuellement. Le 19 février 2022, Éric Zemmour, candidat aux élections présidentielles, est venu au Mont-Saint-Michel, dans le cadre de sa campagne électorale, devant ce, je cite, « haut lieu de la mémoire nationale ». Le candidat donc a pris la parole en multipliant les références aux valeurs chrétiennes de la France, en rappelant que Saint-Michel est le chef de l'armée céleste, c'est-à-dire l'ange qui dirige l'armée des anges contre celle des démons, dans le combat éternel qui se livre le bien et le mal depuis des millénaires. Il ajoute « Je crois que les nations ont elles aussi un combat spirituel à mener. Chaque pays doit en effet défendre son âme, son identité, son indépendance. » Alors vous comprenez, le choix du Mont-Saint-Michel, poursuit-il, pour vous parler de la défense de notre pays. Et c'est dans ce cadre qu'il a déroulé son programme dans le domaine de la défense. Mais Marine Le Pen était déjà venue donc cette fois-ci pour la campagne de 2017. Elle avait dit, je la cite, « Ici bat le cœur de la France, c'est d'ici que j'ai choisi dit-elle, de lancer un appel à l'unité des Français, pays en prise à un double totalitarisme, le totalitarisme islamique et le totalitarisme mondialiste et financier.
Le Mont-Saint-Michel est donc un lieu de mémoire utilisé plutôt par l'extrême droite, Jean-François Boulanger.
Oui, mais lorsque quelqu'un qui se trouve plutôt au centre de l'échiquier électoral veut se tourner vers la droite, c'est le cas d'Emmanuel Macron, le lundi 5 juin 2023, ils seront au Mont-Saint-Michel pour rappeler, je le cite, comment le Mont-Saint-Michel s'éleva aux mesures que la France grandit, je le cite toujours. Chaque pilier d'un âge permet de soutenir le suivant. Le plafond d'un siècle constitue le plancher du prochain. Ici, les hommes vivent, meurent, demeurent à travers le Mont-Saint-Michel, et c'est ainsi que notre nation fut bâtie. Toujours elle fut fondée, refondée et défendue, réinventée sur les ruines et les exploits par chaque génération. Et il ajoute un petit passage écologique pour dire, je le cite encore une fois, « Le Mont est la preuve que rien n'est impossible. Si nous adoptons notre usage du monde aux éléments qui changent, ne redoutons pas l'avenir, car notre grande et vieille nation a toujours su relever les défis du temps, et la légende de nos siècles nous y oblige. Le Mont-Saint-Michel est là pour signifier que notre pays a toutes les raisons d'espérer, une nouvelle fois, trouver l'équilibre entre notre art d'être français et les contraintes du siècle. »
Eh bien, merci.
Le Mont-Saint-Michel, on en parle beaucoup jusqu'à aujourd'hui.
Effectivement, merci Jean-François Boulanger de nous avoir éclairé sur le Mont-Saint-Michel. On vous dit à très bientôt.
À très bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et on quitte le Mont-Saint-Michel pour le massif de Saint-Thierry. Retrouvez un maire qui vous parle, Jean-Pierre. Catherine Malaisé, maire de Prouilly, est en ligne avec vous.
Catherine Malaisé, bonjour.
Bonjour Monsieur Jean-Pierre Benoît.
Merci et merci d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'on est très heureux de vous accueillir pour nous parler de vous et aussi de votre commune, Prouilly, à quelques kilomètres de Reims. Est-ce que vous pouvez nous présenter très rapidement cette commune, sa situation géographique, etc.
Bah écoutez, Prouilly est un village rural, à majorité agricole et viticole, situé dans le massif de Saint-Thierry, tout près de entre Muison et Joncherie-sur-Vel. Nous avons 543 habitants. Il est composé d'un bourg-centre, d'un hameau, avec deux lotissements assez résidentiels, le Ray du Bois et le Bois Goulot, et un parc résidentiel de loisirs, la Chute des Eaux.
Alors, vous-même, Catherine Malaisé, vous êtes maire de Prouilly. Quelles ont été vos motivations pour être maire? J'allais dire, c'était peut-être dans votre ADN, c'est venu naturellement, vous avez souhaité, enfin, comment ça s'est passé?
Alors là, pas du tout. Bon, je suis élue depuis 1995. J'ai fait d'abord deux mandats en tant qu'adjointe. Puis en 2008, j'ai été élue maire, je dis toujours, par accident. Parce que, à l'époque, en 2008, donc deux tiers des conseillers municipaux étaient des nouveaux. Il n'y avait aucun candidat. Et donc, les élus m'ont choisi, puis j'ai accepté la mission sans trop savoir ce qui m'attendait vraiment.
Comment peut-on caractériser votre commune aujourd'hui? Ce sont des viticulteurs, ce sont des retraités, il y a des jeunes. Comment ça se passe?
Alors, c'est une commune quand même à caractère rural. Hein. Il y a beaucoup de viticulteurs, des petites entreprises, quelques agriculteurs. Bon, il y a aussi, je dirais peut-être, je ne sais pas combien exactement, mais des gens qui travaillent sur Reims. Hein. Beaucoup de maisons, des anciennes maisons ont été vendues, rénovées.
Retapées, etc.
Retapées. Bon, nous avons quand même un commerce dans notre village, il faut le souligner, parce que dans beaucoup de villages, il n'y a plus de commerce. Donc nous avons notre boulangerie. La commune a repris le fonds de commerce de la boulangerie en 2013. Et on a remis un gérant, on a refait une nouvelle boulangerie sur la place du village. On a également une micro-crèche que nous avons installée, qui a été installée dans les anciens locaux de l'école. Donc c'est un village qui vit, voilà.
Qui vit, qui est agréable, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les maires, les communes ont fait beaucoup d'efforts pour améliorer le cadre de vie aussi des habitants. Et puis surtout, vous avez dit la boulangerie, ça c'est important. Vous-même, vous êtes très souvent sollicité, il y a des maires d'ailleurs qui veulent pas rempiler parce qu'ils disent c'est trop de responsabilités. Ce sont des responsabilités d'être maire.
Oui, naturellement. Le maire doit gérer une commune avec un budget comme une entreprise. Hein. On est le premier interlocuteur des habitants face à l'État. Ben, on entend tout, c'est normal. On a de nombreux pouvoirs de police. C'est à mon avis le plus difficile à gérer et ce qui entraîne le plus de conflits. parce que gérer l'entreprise, gérer les biens publics, c'est très intéressant. Mais bon, c'est vrai, les relations avec la population deviennent de plus en plus compliquées avec certaines, parce que les personnes ne respectent plus les règles, certaines, et n'acceptent plus qu'on leur dise non.
Et puis il y a beaucoup de gens partout, hein, dans toutes les sociétés, comme on dit, qu'on peut avoir la tête près du bonnet et puis qui s'emportent, etc. Et le maire, comme disait Gérard Larcher, président du Sénat, un peu familièrement, il est aussi à portée d'engueulade, comme on dit. Il faut bien trouver quelqu'un pour vous péter un petit peu, mais enfin, aussi des gens qui approuvent ce que vous faites, forcément, hein.
Oui, naturellement. Bon, c'est sûr que quand ça arrive, les conflits, c'est il faut les digérer, si on peut dire. Bon, c'est pas si souvent, mais c'est vrai que ça prend du temps à digérer.
Aujourd'hui, je vous interromps, Catherine Malaisé, mais il y a le Grand Reims, des communautés de communes. Alors, il y a des personnes, des maires qui sont contents, il y en a des maires qui le sont moins, parce qu'ils disent, est-ce qu'on est encore le patron chez nous ? Le maire, c'est un personnage pour les gens de la commune.
Et je pense qu'on est encore patron. Le Grand Reims, certes, beaucoup de compétences ont été transférées au Grand Reims, mais rien ne se fait sans l'avis du maire et du conseil municipal. On est un relais. Moi, je dis que, bon, c'est vrai que notre mission a un peu été modifiée suite à la création de la communauté urbaine. Bon, avant, on avait un trou dans une rue, on allait acheter ce qu'il fallait, on le faisait. Donc maintenant, il faut remplir une fiche navette. Mais bon, si on suit vraiment les choses, et ça se fait. Hein, en plus, bon, avec le Grand Reims, on a quand même des financements plus importants. On peut se permettre de faire des travaux qu'on n'aurait peut-être pas fait avant. Mais si on suit les choses et si on s'investit auprès des agents du Grand Reims, ça se passe bien.
Alors, est-ce que vous avez... Bon, il y a des demandes, des requêtes. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure si on a le temps. Mais le plus important, c'est est-ce que vous avez des projets en cours ou à plus long terme pour Prouilly ? Avec votre conseil municipal, est-ce qu'il y a des choses qui vous tiennent particulièrement à cœur ?
Écoutez, on fait avec ce qu'on a. Bon, les budgets ne sont pas extensifs, c'est là le problème. On a quand même pas mal de bâtiments communaux, des édifices publics qu'il faut tenir en état. Là, en ce moment, on est en train de rénover le mur de soudainement de l'église et ses abords, parce que le mur de soudainement se fendait et l'église avance. Pour cela, on a signé une convention avec la Fondation du patrimoine afin de lancer une souscription, car ces travaux ne sont pas subventionnés par la DRAC. L'église est classée, mais pas les abords. Nous venons de refaire la salle des fêtes avec le terrain à côté. Comme projet, on a l'installation d'une vidéosurveillance dans le village et aussi la création d'un terrain de loisirs pour les habitants. Nous venons de récupérer le terrain, donc nous espérons pouvoir faire ces deux projets avant la fin du mandat. Il y a aussi la façade de la mairie qui est en très mauvais état et qui a un besoin d'être rénovée. Bon.
Catherine Malaisé, on voit bien que vous avez du pain sur la planche et que vous ne manquez pas d'idées. Alors la question souvent qui est posée, c'est que il y a souvent le maire, alors c'est peut-être pas votre cas, d'une vie professionnelle, d'une vie forcément familiale. C'est pas toujours facile de conjuguer les deux.
Ah non, c'est très très compliqué à gérer. Bon, moi j'étais enseignante, donc j'ai pu demander à travailler à mi-temps quand j'étais élue en 2008. Bon, depuis 2020, j'ai arrêté de travailler parce qu'au dernier mandat, avec ma vie de famille, c'était très compliqué. Donc, il a fallu faire un choix. Donc, j'ai préféré arrêter mon travail. J'étais près de la retraite pour m'investir pleinement à la commune. Mais bon, sans le soutien de ma famille, de mon mari surtout, il ne serait pas possible de tout faire. Hein.
Alors, vous conciliez les deux. On imagine que vous avez des journées bien, bien chargées. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une mère heureuse ?
Je pourrais pas dire ni heureuse ni malheureuse. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours.
Mais vous êtes quand même, il faut le dire, une mère parce qu'il faut être passionné. Vous aimez ça, vous aimez aussi. Et quand on regarde les sondages des Français, quand on demande quel est l'élu avec lequel ils sont plus en phase, c'est le maire qui vient en numéro un. Le maire... C'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on peut aborder de proche.
Oui, c'est vrai. Bon, moi, en étant plus jeune, je me suis toujours investie dans des associations. Donc, j'aime rendre service aux gens. C'est ce que j'apprécie le plus en tant que maire. Travailler en équipe, monter des projets, c'est passionnant. Bon, comme c'est mon troisième mandat, j'ai pris aussi d'autres responsabilités à l'association des maires, dans certaines instances départementales. Donc on rencontre des gens, c'est très enrichissant.
Merci en tout cas, car on arrive au terme de notre émission qui est trop courte, mais vous reviendrez sur RCF. Merci Catherine Malaisé, maire de Prouilly, d'avoir été avec nous. À bientôt.
Merci beaucoup à vous, à bientôt.
Merci à vous également Jean-Pierre, et je vous laisse respirer un petit peu tout seul comme un grand. On lance le journal régional de 18h30. Plutôt tout seul comme des grands avec Thierry. Avec les titres de ce mardi 24 octobre, depuis quelques jours, la nouvelle lettre pastorale du diocèse de Reims et des Ardennes, écrite par Mgr Éric de Moulin-Beaufort, a été rendue publique. Présentation. L'entreprise Muance a inauguré son usine de construction modulaire bas carbone dans la zone d'activité de l'aéroport Paris-Vatry. Objectif, élaborer des logements sociaux plus verts.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
C'est une information publiée dans la journée par nos confrères de l'Union, une consultation en ligne des habitants du Grand Reims met en lumière les difficultés d'accès aux soins en Grand Est, professionnels qui ne prennent plus de nouveaux patients et renoncement aux soins à cause des délais d'attente sont les deux facteurs qui posent le plus souci. L'enquête a été réalisée auprès de plus de 2000 personnes entre le 28 février et le 5 mai. À l'occasion de la journée pastorale du diocèse de Reims et des Ardennes du 7 octobre dernier, organisée à Charleville-Mézières, Mgr Éric de Moulin-Beaufort a présenté aux acteurs pastoraux sa nouvelle lettre pastorale intitulée « Porter les signes du royaume », une lettre écrite à la première personne en pensant à tous les diocésains, une démarche nécessaire, Mgr Éric de Moulin-Beaufort.
Je l'ai écrite notamment à la demande des prêtres du diocèse qui m'ont fait valoir qu'il était nécessaire au stade où on en est d'expliquer de nouveau notre projet pastoral. Nous l'avions lancé le 8 septembre 2019 à Neuvisy dans un grand et beau rassemblement. Mais d'abord, tout le monde n'y était pas. Ensuite, il est mis en place en janvier 2020, mais tout s'est compliqué avec le Covid. Et donc, on n'a pas toujours pu partager avec tout le monde les raisons profondes de cette transformation de notre organisation pastorale. Et j'ai voulu, à partir de là, et c'est ça qui fait que la lettre est peut-être un peu plus longue que ce que j'aurais pensé, j'essaie de ne pas me contenter de présenter le projet, mais de donner des raisons profondes et un peu d'espérance.
Une lettre en plusieurs parties, dont la première à deux niveaux, puisqu'elle permet de faire le point sur l'évolution globale de la société, mais aussi de dire concrètement quelle est la situation du diocèse.
Il y a un peu deux niveaux dans la première partie. J'essaie de présenter un peu les raisons qui nous ont amenés à ce changement, et des raisons qui sont propres à notre diocèse, et des raisons qui sont, à mon avis, une sorte de mutation de l'humanité tout entière, voilà, que j'essaie de présenter de manière un peu sommaire, mais quand même assez précise. Voilà, parce que je crois important que nous réalisions, que tout le monde réalise, que notre rapport au temps, notre rapport à nous-mêmes, en l'occurrence, l'exemple que je prends, c'est notre rapport à notre devoir, à ce que nous devons faire, bien, a beaucoup changé, et que ça change énormément nos manières d'être et de vivre, de nous comporter. Et par conséquent, ça a un impact dans la vie de l'Église. Puis après, ce que la relecture m'a apporté, c'est que notre diocèse, il n'a pas attendu 2018 ou 2019 pour bouger, pour se transformer. En 1996-1997, il y a eu tout un travail autour des paroisses nouvelles. Alors certains pourraient avoir l'impression qu'on multiplie les plans de sauvetage, comme dans des entreprises, on fait des plans sociaux, et puis jusqu'au jour où on fait faillite. C'est vraiment la relecture que j'essaie de proposer, et c'est ma conviction profonde, c'est que c'est tout autre chose. Il y a tout un travail d'appropriation, en particulier de ce que le Concile Vatican II a mis en lumière, de la nature même de l'Église et de sa mission, et que nous sommes dans un temps où il nous faut nous approprier encore davantage, c'est encore une étape supplémentaire, dans l'appropriation de ce que, comme chrétiens, au milieu de ce monde, nous recevons comme mission de la part de Dieu.
Mgr Éric de Moulin-Beaufort, interrogé par Violaine de Caffarelli du service communication du diocèse de Reims et des Ardennes. Toutes les explications sont à retrouver par différents biais dans l'émission Tous frères et sœurs du 19 octobre dernier, que vous pouvez retrouver dans la rubrique programme sur le site rcf.fr en sélectionnant votre radio RCF Reims-Ardennes, ou alors en vous rendant sur le site du diocèse de Reims et des Ardennes avec toutes les vidéos qui ont été publiées aussi par Violaine de Caffarelli et puis Bénédicte Cousin, responsable du service communication du diocèse de Reims et des Ardennes. Par ailleurs, Mgr Éric de Moulin-Beaufort sera notre invité demain soir à 18h10 pour parler de Kering. soit quand on dit à 18h10, ça sera à l'intérieur du 18-19 en région, bien évidemment. On avait beaucoup parlé du drame du 22 mai dernier où une infirmière du CHU de Reims, Karen Mézineau, avait été poignardée et était décédée de ses blessures. L'homme, accusé des faits, est diagnostiqué schizophrène paranoïde depuis plus de 40 ans. Il a été, lors d'une première expertise psychiatrique, déclaré pénalement irresponsable. Muance, start-up spécialisée dans la fabrication, la commercialisation et la mise en œuvre de bâtiments à l'aide de modules préfabriqués, a inauguré vendredi dernier son usine de construction modulaire bas carbone à Vatry, près de Châlons-en-Champagne. Fondée en 2020, elle a comme objectif d'élaborer un procédé de fabrication de logements sociaux plus rapide, moins coûteux et surtout plus vert. Lionel Moranval, président et fondateur de Muance.
Aujourd'hui, on est 17 collaborateurs. On sera normalement d'ici la fin de l'année une vingtaine et d'ici 3 ans, normalement une cinquantaine. Ça, c'est les emplois directs. Et en termes de capacité, on a une capacité de 250 logements par an à réaliser ici. Ça fait à peu près un logement par jour. Le site, c'est un site de 3,5 hectares sur lequel on a bâti une infrastructure de 6000 m2. C'est à peu près 11 millions d'euros d'investissement répartis en 9 millions d'euros sur les équipements et l'infrastructure et 1,5 million sur la partie R&D. C'est des produits qui sont bas carbone, voire très bas carbone, puisque c'est des bétons qui sont des bétons 3 fois plus légers, 10 fois plus résistants thermiquement. C'est également des isolants biosourcés. Donc c'est tout ce complexe qui fait qu'on arrive aujourd'hui à proposer des bâtiments qui sont déjà sur les seuils 2025 et qui, dès fin 2024, atteindront les seuils 2030 des accords de Paris. Donc ça, c'est le premier point important. Le deuxième, c'est que Muance, c'est 5 ans de recherche, 3 brevets déposés, le lauréat du concours d'innovation nationale sous l'égide du Premier ministre l'an dernier. C'est une société qui est labellisée Green Tech Innovation et c'est une société qui a été nommé cette année CleanTech de l'année lors du concours CleanTech Open France.
Propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. L'inauguration s'est effectuée en présence de ses partenaires historiques, la Banque des Territoires, qui a investi 686 000 euros en fonds propres et quasi fonds propres dans Muance Immobilier, la structure qui a porté la construction de l'usine, et Plurial Novilia, filiale du groupe Action Logement, qui a de son côté été le premier bailleur social à s'engager aux côtés de Muance. Cette collaboration se traduira en outre par plusieurs opérations de logement, dont la première vient d'être lancée à FIM pour 14 maisons individuelles pour une livraison prévisionnelle au troisième trimestre 2024. 18h37, ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
Et on part à l'Épine dans cette deuxième partie d'émission. Pour la troisième année consécutive, le sanctuaire Notre-Dame de l'Épine propose le 5 novembre, le premier des 3 dimanches, Oasis Fraternelle, un espace de rencontre, d'entraide, de partage et de réflexion ouvert à tous, croyants ou non, pratiquants ou non. Pour nous en parler, sœur Marie-Charles de Jésus, sœur hôtelière au service de la communication au sanctuaire marial du diocèse de Châlons, au micro de Christopher Fausten.
Sœur Marie-Charles de Jésus, bonjour.
Bonjour.
Un dimanche Oasis Fraternelle. Est-ce qu'on peut d'abord rappeler à nos auditeurs l'intérêt de cette journée Oasis Fraternelle ?
Alors, les dimanches d'Oasis Fraternelle ont été inspirés par le projet missionnaire de Mgr Touvet pour le diocèse de Châlons, prophète de l'espérance. Donc, il s'agissait de créer des lieux sources, des oasis fraternelles dans le diocèse pour accueillir de nouveaux croyants. Donc sur la basilique Notre-Dame de l'Épine, pour la troisième année, nous avons mis en place cette proposition, donc 3 dimanches dans l'année, un espace de rencontre, de convivialité, de fraternité et aussi de formation qui soit ouvert à la fois à des chrétiens et à des non-croyants, des chrétiens pratiquants ou non-pratiquants. Voilà, avec des sœurs, avec Don Erwan et différents intervenants laïcs.
C'est un rendez-vous ouvert à tout le monde, croyant ou non-croyant, avec plusieurs intervenants. Alors justement, rentrons sur le déroulement de cette journée, sœur Marie-Charles de Jésus.
Le thème écologie intégrale et agriculture nous a été suggéré par des agriculteurs chrétiens qui se sentaient très isolés et qui avaient besoin d'approfondir ce que dit l'Église, le magistère du pape François avec Laudato si, et aussi faire connaître à ceux qui ne sont pas du métier, ce qu'ils vivent, la réalité qu'ils vivent, les questions, les difficultés auxquelles ils sont confrontés pour se sentir soutenus. Et là, la Providence fait que le 4 octobre, le pape François vient de publier la deuxième partie de son exhortation apostolique Laudato Si, donc qui s'appelle Laudate Deum, louer Dieu. Et donc l'Oasis fraternelle du 5 novembre sera l'occasion de nous plonger dans la suite de cette exhortation apostolique. Donc il y aura en particulier la participation de Benoît Francard, qui est agriculteur du côté de Reims, et du père Joël Morlet, qui viendra nous rejoindre pour cette journée. Pour ceux qui souhaitent participer à la messe dominicale, la messe du sanctuaire est à 10h30, mais sinon pour tous, qu'ils aillent à la messe dans leur paroisse ou qu'ils n'aillent pas à la messe le dimanche, on se retrouve à midi à la salle de l'hôtellerie, 26 avenue du Luxembourg, à Lépine, pour l'apéritif partagé, un temps d'accueil, l'introduction au thème de la journée, et puis ensuite un temps de repas partagé, où chacun apporte quelque chose, pour vraiment avoir une belle tablée joyeuse et conviviale. Et ensuite, habituellement, il y a un petit temps de topo par l'un ou plusieurs intervenants, et surtout une table ronde, où chacun peut s'exprimer, débattre. Et ensuite, l'après-midi se poursuit, soit par un temps de discussion personnelle, soit par une bonne entraide à la vaisselle, et par les vêpres, pour ceux qui souhaitent terminer le dimanche par les vêpres et le chapelet à la basilique.
Oasis fraternelle, écologie intégrale et agriculture à la suite de Laudato Si, le 5 novembre prochain du côté de l'Épine. Comment se passe l'inscription ?
Alors pour l'inscription, il suffit d'envoyer un petit SMS ou un appel téléphonique au 07 66 12 01 28. 07 66 12 01 28. Donc c'est le téléphone des sœurs au sanctuaire. N'hésitez pas à nous laisser un message. Et moi-même, sœur Marie-Charles de Jésus, j'aurai la joie de vous répondre et de vous accueillir.
Également inscription possible par mail ?
Oui, réservation au singulier point ndle arrobase chalon.catholique.fr.
Merci, sœur Marie-Charles de Jésus, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF pour nous présenter ces dimanches Oasis fraternelles le 5 novembre prochain autour de l'écologie intégrale et agriculture. Merci beaucoup.
Merci, Christopher.
Un grand merci à sœur Marie-Charles de Jésus et Christopher, évidemment, depuis l'Épine, c'est près de Châlons-en-Champagne. Le premier dimanche Oasis fraternelle se tiendra donc le 5 novembre de midi à 15h30 à la salle Odette Prévost, 26e rue du Luxembourg, à l'Épine.
Le 18-19 sur RCF.
À 18h43, le député de la Marne, Charles de Courson, est avec Jean-Pierre pour balayer l'actualité en France et dans le monde, notamment d'un point de vue politique.
Charles de Courson, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Vous êtes un expert de la vie politique et puis vous connaissez bien les sujets. Quel est votre avis sur la situation internationale pleine d'inquiétudes d'aujourd'hui ?
Elle se dégrade, mais quand on regarde ça avec un peu de recul, on voit que la montée des nationalismes dans le monde entier, du nationalisme chinois, voire du caractère impérial de la Chine, mais vous le voyez aussi en Turquie et vous le voyez en Russie, où l'actuel président Poutine rêve, il le dit dans ses discours, de reconstituer l'empire tsariste, voire l'empire soviétique. Comme Erdogan dit, il rêve de reconstituer l'empire ottoman. Et, enfin, vous êtes pris d'effroi. Et en Chine, il rêve, l'actuel président chinois, de créer une grande Chine qui serait une certaine forme d'impérialisme de l'empire chinois qui a existé au 15e, 14e siècle. En Asie.
Et puis la situation en Israël maintenant, une situation tragique enfin.
Oui, mais je pense qu'il y a deux volets. Il y a tout d'abord les actes, non pas de terrorisme, de crimes contre l'humanité, commis par le Hamas. Et on pourrait espérer que tout le monde, de l'extrême droite à l'extrême gauche, les condamne fermement. Et puis le problème du peuple palestinien, pendant des années, la diplomatie française et d'autres diplomaties, y compris américaines, étaient pour la création de deux États. C'est-à-dire que le peuple palestinien, qui est un peuple, n'a pas d'État. Et donc, si on veut une paix durable, il faut donner un avenir politique, soit sous la forme d'un État ou peut-être d'autres choses à imaginer, et de lui donner un avenir et un espoir. Sinon, vous poussez une partie de l'opinion palestinienne vers l'extrémisme. Voyez. Donc c'est ça le danger. Et donc il ne faut jamais oublier ce volet et pas simplement se contenter de dénoncer les crimes contre l'humanité commis par Hamas et le droit de l'État d'Israël de se défendre. Ça, c'est un premier volet. Mais le deuxième volet, c'est de trouver une solution politique au peuple palestinien.
Et les questions, l'inquiétude aujourd'hui des Français, on voit des alertes à la bombe un petit peu partout, beaucoup parlent de plaisantins, jusqu'au jour où ça pourrait exploser quand même. Il y a quand même une forme d'insécurité, vous qui observez la vie publique depuis des années.
Si vous voulez, le grand danger pour la France, c'est que le conflit israélo-palestinien se transpose en France. Il faut rappeler qu'on a de l'ordre de 600 000 compatriotes de confession israélite et qu'on a à peu près 6-7 millions de nos compatriotes de confession musulmane. Et parmi eux, il y a une partie qui prend fait et cause pour le Hamas. Voyez. Et donc le grand danger, d'ailleurs on voit monter les actes d'antisémitisme, hein, et on verra peut-être aussi monter l'islamophobie, comme on l'appelle, voyez, donc qui est une autre forme de racisme. Voyez. Et donc notre pays, comme il a la plus grande communauté juive d'Europe et la plus grande communauté musulmane d'Europe, risque de transposer dans le débat national un conflit, le conflit moyen-oriental.
Alors, une question...
Et ça, c'est très dangereux.
Une question, bien entendu, Charles de Courson, vous qui êtes européen, beaucoup affirment que c'est une véritable passoire, les frontières européennes, Frontex, etc., et que finalement, tout cela est lié d'une certaine façon, pas seulement, mais à des problèmes d'immigration avec des gens qui viennent de partout, mais qui ont quand même des allures de terrorisme. Est-ce que vous comptez sur la loi immigration pour essayer d'améliorer les choses?
Non, mais première observation, tous les États de l'Union européenne qui ont essayé de résoudre le problème de l'immigration dans un cadre national ont échoué et ils ne peuvent qu'échouer. Pourquoi? Mais prenez la France, si on prenait des mesures purement nationales, supposez qu'on puisse les prendre, comment vous tenez la frontière, par exemple, avec la Belgique? Expliquez-moi, quand vous avez des villages où vous avez une rue, d'un côté c'est la Belgique et de l'autre côté c'est la France. C'est impossible, on ne va pas mettre des fils de fer barbelés tout autour de la France. Mais Et donc la seule solution, c'est un accord européen et après un accord entre les Européens et les pays d'origine. Et on voit bien que les deux grands volets qui sont le développement des pays dont sont originaires les immigrés. Pourquoi les immigrés? Pourquoi massivement l'immigration en Europe? C'est une immigration économique. Alors il y a aussi une immigration liée à des conflits politiques ou militaires. Mais le très gros, si vous prenez sur 20 à 25 ans, c'est une immigration économique. Quand vous êtes à la limite de la famine, voire en famine, quel est votre espoir? On le voit en Afrique, et que ce soit en Afrique centrale, en Afrique du Nord, l'idée c'est on vient en Europe. C'est la seule façon d'assurer à nos enfants un avenir. Voire on envoie ces enfants pour essayer de passer et de réussir à intégrer à l'un des pays de l'Union européenne. Donc c'est ça les deux grands volets. Il y a un volet préventif, c'est-à-dire le développement et de continuer à aider ces pays, ceux qui le veulent bien, et puis d'avoir un accord notamment d'expulsion. Et quand vous voyez que les OQT, c'est-à-dire les obligations de quitter le territoire, taux d'exécution, on est tombé à 7-8%. On était à 20% il y a encore quelques années quand on vit au ministre de l'Intérieur actuel. Mais monsieur le ministre, vous dites on va tenir tout ça, mais qu'est-ce qu'on voit? Vous étiez à 20% du QT, c'était déjà extrêmement faible, mais on est descendu à 7-8%.
Est-ce que dans la loi immigration, il va y avoir des améliorations possibles sur cette question qui fait que, par exemple, on peut expulser davantage ou d'une autre façon les OQTF? Ou en tout cas, faire exécuter?
Mais contrairement au discours officiel, le problème, il est d'avoir, pour expulser quelqu'un vers son pays d'origine, il faut l'accord du pays d'origine. C'est le problème qu'on a, par exemple, avec l'Algérie. On accorde des visas dans le sens Algérie vers la France, mais l'Algérie est extrêmement réticente, pour ne pas dire plus, dans le sens inverse. Donc il faut dire, bah, écoutez, le principe du droit international qui est la réciprocité. Voilà.
On vous écouterait, Charles de Courson, on vous écouterait pendant des heures, parce que ça nous ferait d'ailleurs plaisir, parce qu'on a des personnes comme vous de qualité pour expliquer tout ça clairement. Il nous reste une minute, j'ai quand même abordé cette question, parce que vous êtes à l'Assemblée nationale, et la loi de finances se discute, et Elisabeth Borne a encore dégainé le 49-3.
Oh mais tout le monde le savait, hein, puisque je ne trahis pas de secret. Le rapporteur général avait demandé à me voir avant tout ça, en me disant, tu sais, de toute façon, il y aura 49-3, donc dis-moi quels sont les amendements que vous avez déposés qui seraient susceptibles de vous inciter à ne pas voter la motion de censure. Donc, tout le monde. Le seul débat, c'était quand est-ce que ça va être déclenché. Alors quand vous voyez que pour la première fois, c'est déclenché à la fin de la discussion générale, sans qu'on ait commencé à attaquer les 5000 amendements qui avaient été déposés, dont certains d'ailleurs avaient été adoptés en commission. Il n'y a plus de Parlement. Ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas diriger un pays en étant minoritaire à l'Assemblée nationale et ultra-minoritaire dans le pays. C'est impossible.
Charles de Courson, on est obligé de s'arrêter là. Pour aujourd'hui, mais on aura d'autres émissions. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.
Eh bien, à vous aussi et à tous vos auditeurs.
Un grand merci, Charles de Courson. Merci, Jean-Pierre.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières. C'est le 18-19 sur RCF.
On vous avait promis une rencontre ce soir avec le délégué épiscopal à l'information du diocèse de Chalon, Loïc Marthe, arrivé récemment. Il est au micro de Christopher Fausten.
Bonjour Loïc Marc.
Bonjour Christopher.
Merci d'être notre invité aujourd'hui dans les studios de RCF. Vous succédez depuis quelques semaines à Florent Masson. Parlez-nous un petit peu de vous pendant ces quelques minutes. À l'occasion, on vous a laissé quelques jours pour vous installer au sein de l'évêché, dans le fonctionnement, dans les différentes missions que vous menez avec le diocèse de Chalon. Donc on profite aujourd'hui de vous découvrir un petit peu pendant ces quelques minutes. Quel est votre parcours, Loïc Marc?
Eh bien, depuis 3 semaines, je suis le nouveau DEI, comme vous dites. J'ai la joie de succéder après Florent Masson. Mon parcours de base, c'est du marketing touristique. Alors avant, je vendais des voyages. Maintenant, je vends Jésus.
Ah oui, on change complètement d'univers.
Oui, l'avantage, c'est qu'on reste dans le côté promotion, service et à l'écoute. C'est-à-dire que quand dans le marketing, on nous apprend que le client est roi. Bon, là, mes clients, c'est les prêtres, les paroissiens qui nous demandent des services. Et d'un côté, j'ai toujours été attiré par ce côté relationnel et l'écoute. Aujourd'hui, mon rôle, c'est vraiment de venir apporter mon expertise marketing stratégique,
oui,
mais aussi mon côté terrain. Ça fait plus de 10 ans que je suis engagé dans le scoutisme, association culturelle. Et maintenant, j'ai beaucoup à l'époque râlé sur les services communication. Maintenant, c'est sur moi qu'on va venir râler quand ça ne va pas.
Alors, anciennement dans le domaine du tourisme sur Chalon?
Non, alors je suis un vrai touriste. J'ai grandi à Nice.
Ah oui. Et vous venez dans le Nord?
Alors, pour nous, passer Aix, c'est le Nord. Donc, c'est le Grand Nord pour moi.
D'accord. C'est le Grand Nord, d'accord. Et comment est venue l'idée de remonter dans le secteur de la Marne, de Chalon-Champagne?
Alors, j'ai travaillé sur Paris pendant 3 ans en tant que directeur commercial et je cherchais vraiment à partir à la fois de Paris, nouvelle mission, nouveau projet,
oui,
et surtout donner du sens à ma vie. Non pas que le marketing, c'est pas du sens, mais étant très engagé dans les pastorales, dans les JMJ, je passais plus de temps à m'amuser à préparer mes réunions JMJ que mon travail, c'est qu'il y a un problème. Donc forcément, j'ai voulu aller un peu voir ailleurs et chercher un poste avec en lien avec la pastorale, les jeunes, l'engagement. Et quand j'ai vu ce poste de DIRCOM à Chalon, je ne savais même pas où était Chalon sur la carte, je me suis dit, oh ça me plaît, le poste me plaît, allez, on y va.
Alors, j'ai retenu 2 mots dans cet échange, engagement et jeune. Apparemment, il y a eu l'univers scoutisme.
Beaucoup trop longtemps le scoutisme.
C'est-à-dire combien de temps?
Oula, je vais peut-être compter au bout de 12 ans.
Ah oui, d'accord.
Donc de 8 ans à 31 ans, ça fait 12 ans, non? À peu près.
Ouais, à peu près.
Non, chez les scouts d'Europe depuis maintenant plus de 12 ans. Allez, on va dire quasiment, pas encore 20. À 20 ans, je peux me poser des questions quand même.
Donc un groupe de scouts dans la région de Nice aussi?
J'ai commencé à Nice, ensuite j'ai été chef en Bretagne.
Oui.
Et maintenant, je suis formateur au niveau national. Donc maintenant, je me déplace. Alors, je reste soit en Bretagne, soit dans le sud, pour qu'il y ait la mer et le soleil, sinon je ne bouge pas trop. Et je forme donc les jeunes chefs à leur service, donc les plus jeunes.
Loïc Marc, nouveau délégué épiscopal à l'information du diocèse de Chalon, avec nous aujourd'hui sur RCF, à la rencontre du nouveau DEI pour le diocèse de Chalon. Quelle est la mission, les missions d'un DEI, d'un délégué épiscopal à l'information pour le diocèse de Chalon notamment?
Alors, en bon fan de sport, je vais dire que c'est un bon pivot. C'est qu'à la fois, on est un communicant, on a un responsable d'équipe, on a un conseiller. Oui. C'est vraiment les trois piliers, on va dire. On est également en charge de la partie communication nationale, donc dans le groupe de travail ou en local, déjà. Il y a un vrai rôle, je pense, de conseil à la fois des paroisses comme de l'évêque. C'est-à-dire que l'évêque peut demander conseil sur un événement, sur un poste, comme une paroisse peut venir nous voir. Je n'arrive pas à mettre à jour ma page Facebook, comment on fait? Ou je ne sais pas mettre un beau visuel, expliquez-nous. Donc on est vraiment en service. On a un service pastoral, un service diocésain. Et moi, j'ai à cœur de prendre cette mission et de prendre mon bâton pèlerin et d'aller rencontrer les églises et dire voilà, on peut vous aider, vous former, vous accompagner. On n'est pas juste des super communicants de notre bureau qui ont des beaux visuels sur Canva et sur Adobe Express. On sait aussi travailler avec les réalités locales. Et je pense que le vrai rôle du DEI, c'est de faire le lien entre mon équipe, qui est vraiment là pour appuyer sur les besoins techniques et de gestion, et également représenter l'évêque si besoin, des événements, des réunions, également l'accompagner au quotidien dans ses déplacements. Je prends plaisir à découvrir la Champagne avec lui. C'est un très bon guide touristique. Je vous le conseille.
Loïc Marc, est-ce si simple vraiment de à la fois jongler entre la demande de l'évêque et la demande justement des pastorales, des espaces missionnaires, de se retrouver un petit peu entre les deux parties?
Malheureusement, les journées ne font que 24 heures. Je pense qu'il faudrait beaucoup plus de temps. En soi, oui. Étant donné que les paroisses font beaucoup appel à nos équipes pour des besoins très précis et très techniques. La seule difficulté, c'est que nous ne sommes pas magiciens et que très souvent, ils arrivent tous avec toutes leurs demandes. Et c'est pour quand? C'est pour hier. Alors, je commence à dire ici, le possible est déjà fait, l'impossible est en cours et pour les miracles, appelez Cédicom. Ça va être le nouveau slogan de Cédicom parce qu'on fait des miracles. Mais malheureusement, on est obligé un petit peu de jongler. Des fois, on dit, ben, désolé, là, on ne peut pas. Et certains acceptent, d'autres un petit peu moins. Encore une fois, les priorités sont vraiment ce qui nous tombe au niveau d'actualité. Si Monseigneur a besoin de moi sur un sujet, je vais déléguer à mon équipe des projets. Et malheureusement, des fois, je vais dire à l'équipe, là, je suis désolé, pendant deux jours, vous m'oubliez parce que je suis sur une mission bien précise. Et après, je reprends le cours de l'activité avec les autres.
Loïc Marc, vous venez de parler il y a quelques instants justement du Cédicom, le service diocésain pour la communication, donc au sein du diocèse de Chalon, hein, qui a été créé depuis plusieurs années. Parlons maintenant de l'équipe, qui est en bousculement, si je peux dire, depuis la rentrée.
En fait, l'équipe est en restructuration, mais dans le bon sens du terme. Oui. C'est-à-dire qu'on est 4 pour 3 postes et ça se passe très bien. On a une colocation, comme on dit. Donc Sandrine, qui était chargée de mission digitale, va monter au temporel pour s'occuper des legs et des dons. Étant donné que Gwendoline est arrivée donc, pour la remplacer, donc Gwendoline qui a 31 ans comme moi, et oui j'avoue mon âge est 31 ans et qui vient d'un parcours qui est en reconversion professionnelle aussi, qui vient du social. Donc en fait on est un public hétéroclite, c'est-à-dire que moi qui suis engagé depuis plus de 10 ans, elle qui découvre un regard neuf sur l'église et donc va nous poser des questions là où pour nous tout est logique, parce que pourquoi on met telle couleur, pourquoi on met tel événement, elle connaît pas. Donc c'est un peu le cadre d'un enfant qui découvre, et donc Lorena qui est notre infographiste qui est toujours là, qui nous amène ce côté pétillant dans l'équipe.
Voilà, donc une équipe de trois salariés renouvelés depuis plusieurs semaines, hein, depuis la rentrée scolaire, on peut le dire, la rentrée pastorale plutôt, rentrée de septembre. Oui Loïc?
Et on a toujours un projet d'accueillir des personnes et stagiaires. Oui. Donc voilà, si les jeunes veulent venir faire un stage au Cédicom, on a un bureau dédié pour nos stagiaires. Donc n'hésite pas à venir nous rencontrer, faire du graphisme, de la communication audio-vidéo et de monter des projets avec nous. On est vraiment vifs de ces bonnes mains qui veulent s'immiscer dans ce projet missionnaire et de com.
Alors pour les personnes éventuellement intéressées là, derrière leur poste ou derrière leur smartphone ou leur tablette qui écoutent l'interview, comment contacter le Cédicom?
Via le mail cédicom@chalon.catholique.fr. On est vraiment à disposition pour répondre à leurs questions, les rencontrer et il y a forcément une place pour eux dans l'équipe.
Et puis le Cédicom, eh bien, même si entre guillemets c'est un peu comme dans le monde de la radio, des hommes de l'ombre, eh bien, le Cédicom est actif à travers les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, enfin X, pardon.
Et Instagram.
Et Instagram du diocèse de Chalon, et le site internet qui est mis à jour régulièrement, le site chalon.catholique.fr. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Loïc Marc d'avoir pris ces quelques minutes aujourd'hui sur RCF.
Merci Christopher.
Je rappelle, nouveau délégué épiscopal à la formation du diocèse de Chalon. Très bonne mission et à très bientôt sur RCF.
Merci à vous également, Christopher. C'était depuis le studio RCF à Châlons-en-Champagne. Pour rappel, le Cédicom vous accueille à l'évêché du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h, de préférence sur rendez-vous pour vos différents projets afin de vous offrir le meilleur service possible. L'impossible est en cours, vous l'avez entendu, avec Loïc Marc. Ainsi se referme ce magazine régional. On se retrouve demain, 18h10, pour un nouvel épisode en région. Très bonne soirée en compagnie des programmes de RCF. Prenez soin de vous.